Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je vais aller en France, en Suisse, et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici.
Au Mali ?
Mais oui.
De retour en France, après 4 ans de détention dans le désert malien, Sophie Petronin envisage déjà de repartir.
L'humanitaire qui était la dernière otage française au monde a été accueillie à la mi-journée à Villacoublay par Emmanuel Macron. Europe 1 était présent, bien sûr.
La marche funèbre entendue cet après-midi dans les rues de Lille. La métropole passera demain en zone d'alerte maximale comme Lyon, Saint-Etienne et Grenoble.
Dans l'actualité également, un suspect dans l'affaire de l'attaque des policiers dans le Val-d'Oise. Un homme qui s'est lui-même livré à la police.
Raphaël Nadal en finale à Roland-Garros, ça n'est pas encore fait. Hein. L'Argentin Schwarzman en ce moment s'accroche. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,71% à 4946 points.
Et puis la météo avec Anissa. Bonsoir Anissa. Un ciel partagé et de la fraîcheur au programme demain.
Oui, demain le ciel est effectivement partagé, Julien, entre nuages, éclaircies et quelques averses encore qui persistent. Les températures, elles commencent à baisser demain. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Elle avait été enlevée la veille de Noël au Mali, il y a près de 4 ans. Sophie Petronin, la dernière otage française au monde, est donc de retour parmi les siens.
Son avion en provenance de Bamako s'est posé à la mi-journée à 12h45, donc sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Vous y étiez, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, un retour sur le sol français chargé d'émotions pour Sophie Petronin. À sa descente de l'avion, masque anti-Covid sur le visage, foulard blanc sur la tête, l'ancienne otage est accueillie par le président. Elle échange quelques mots avec Emmanuel Macron, puis avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, avant de tomber dans les bras de sa famille. Longue et touchante embrassade avec ses petits-fils devant les caméras et les photographes. Un moment très intense qui s'est ensuite poursuivi à l'écart dans le pavillon d'honneur de l'aéroport de Villacoublay, où Sophie Petronin a retrouvé d'autres proches en privé, en compagnie d'Emmanuel Macron. Le président qui devait prendre la parole a finalement annulé sa déclaration. « Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin », a simplement tweeté le chef de l'État. Sophie Petronin, elle non plus, a préféré ne pas s'exprimer devant les journalistes. Elle est repartie 1h30 après avoir posé le pied sur le tarmac et va maintenant pouvoir profiter de sa liberté et de ses proches
c'est
après 4 ans de captivité.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Sophie Petronin qui n'a donc pas souhaité, hein, vous le disiez, prendre la parole à son arrivée en France. Elle a privilégié les retrouvailles avec sa famille. Mais hier, quelques heures après sa libération, dans une courte interview, elle avait confié son souhait de retourner au Mali où elle dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance.
Je vais aller en France, en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici.
Au Mali ?
Mais oui.
Incroyable.
Non. Moi j'ai pris l'engagement pour les enfants. Ça fait presque 4 ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes. Or, les financements continuent, il a pris ma place, donc on me rassure, et c'est mon fils, donc j'y crois, que tout va bien. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil juste et les saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre.
La détermination et l'engagement donc de Sophie Petronin, elle était au micro de nos confrères de France 24.
Didier François nous a rejoint dans ce studio. Didier, est-ce qu'on en sait plus ce soir sur les coulisses de la libération de la Française ?
Oui, absolument. La séquence de libération a commencé vendredi dernier, quand les négociateurs maliens ont fini par conclure un accord avec les islamistes d'un groupe terroriste qui s'appelle donc le JNIM et qui est affilié à Al-Qaïda. Leur idée, c'est d'organiser un échange d'environ 200 djihadistes détenus dans la prison centrale de Bamako contre les otages. Les autorités maliennes ont alors demandé aux militaires français de suspendre l'ensemble de leurs opérations dès le lendemain matin dans la région de Tessalit, au nord du pays, où pendant tout le week-end, des avions maliens ont amené les prisonniers relâchés, donc 70 le samedi, 110 le dimanche et 26 pour terminer, les lundis et le mardi, sachant que dans l'eau, il y avait beaucoup de combattants de base, mais il y avait également quelques chefs qui ont quand même un passé assez lourd. Alors à l'origine, ce que voulait obtenir le gouvernement malien, c'était la libération de ce responsable politique de premier plan, Soumaïla Cissé, chef de l'opposition parlementaire, enlevé il y a 6 mois. C'est un enjeu important pour la junte au pouvoir, parce que ça permettait de renforcer sa légitimité, puis surtout de consolider l'unité nationale. Et dans cette logique, en fait, la libération de Sophie Petronin, c'était un petit peu une façon de faire passer la pilule amère, hein, pour les soldats français, oui, qui ont capturé capturer quand même la plupart de ces djihadistes relâchés en prenant des risques et en perdant des camarades au combat. Donc cet épisode va marquer un tournant, clairement, dans la gestion de la crise au Mali. Le choix des autorités maliennes de négocier directement avec les terroristes peut se défendre, ça ne fait aucun doute, mais il pose la question de l'avenir de l'opération Barkhane et de l'engagement militaire français dans ce pays, en tout cas comme un engagement d'attrition.
Oui, merci Didier François et on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 19h15 dans le Club des Idées pour un grand débat autour de la coulisse de cette libération. Nous avons ce soir plein d'infos.
Et François Hollande se félicite de cette libération, mais il appelle à la prudence. Le fait que plus aucun Français ne soit retenu en otage dans le monde ne doit pas, dit-il, réduire la vigilance dans les déplacements de nos compatriotes sur les territoires les plus touchés par le terrorisme et par les trafics humains. À partir de demain, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Lille rejoindront Paris, Aix et Marseille en zone d'alerte maximale.
Oui, les hôpitaux lyonnais et des alentours vont commencer à déprogrammer 25 à 30% des opérations non urgentes à compter de la semaine prochaine.
Et dans ces quatre métropoles, on s'inquiète bien sûr aussi des nouvelles restrictions. Une manifestation s'est d'ailleurs tenue cet après-midi à Lille, Maximilien Carlier, avec des professionnels venus dire surtout leur peur de l'avenir.
Oui, effectivement, on a pu entendre la marche funèbre. Des gerbes ont été déposées devant la préfecture.
La mort arrive de manière peut-être lente mais certaine.
Camille est patronne d'un bar à Lille.
On est tous des indépendants, que ce soit les restaurateurs, les salles de sport, les cafés, les producteurs de spectacles, les organisateurs de réception, les sociétés d'événementiel, les intermittents. Tout le monde, on est indépendant et on est en train de se dire que nos activités sont en train de mourir.
À cause des mesures sanitaires qui n'ont pas ou peu d'effet selon cette tenancière, ici des dizaines de professions sont représentées et des affiches, on en voit beaucoup. SOS discothèque, je suis magicien, je ne veux pas disparaître. Anthony Blondel est directeur d'une société spécialisée dans la protection. Il manifeste avec ses vigiles.
Moi, je pense à tous mes salariés. Aujourd'hui, j'ai à peu près 70 agents qui sont sans ressources, sans emploi. Je suis là pour eux. On ferme le rideau et sans savoir si demain, on va pouvoir reprendre. Donc, on a cette épée de Damoclès en permanence en disant est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça ne va pas reprendre. Et je n'ai pas d'espoir et je n'ai pas de réponse à donner à mes agents. C'est ce qui est finalement le plus difficile aujourd'hui.
Des indépendants qui demandent à être aidés, accompagnés, entendus. Certains espèrent qu'une solution va être trouvée pour ouvrir les bars, les discothèques, avec un protocole sanitaire encore plus renforcé.
Le reportage de Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 à Lille. Notez que le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui 50 millions d'euros supplémentaires pour l'ouverture de 4000 lits à la demande dans les hôpitaux français, et ce, dès le mois de décembre.
Des lits capables d'ouvrir quand c'est nécessaire et de refermer si la pression sanitaire diminue, mesure qui était promise, on s'en souvient, dans le cadre du Ségur de la Santé.
Oui, alors que la circulation du virus chez les personnes âgées en particulier inquiète Santé publique France, elle fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir. Et puis chez nos voisins, l'Europe, l'Espagne décrète l'état d'alerte sanitaire dans la région de Madrid pour 15 jours. Pour tenter là encore de freiner la propagation, la police et la Guardia Civile vont se déployer sur les grands axes routiers pour contrôler les entrées et les sorties de la capitale espagnole.
Le prix Nobel de la paix 2020 décerné au Programme alimentaire mondial des Nations Unies.
Oui, récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, bien sûr, mais aussi pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones particulièrement touchées par les conflits. On aura l'occasion d'y revenir dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et il est 18h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Au surlendemain de la violente attaque contre deux policiers dans le Val-d'Oise, un homme s'est rendu aujourd'hui à la police.
Et Guillaume Bier, on ne sait pas encore si ce suspect fait partie des agresseurs.
C'est effectivement l'une des interrogations des enquêteurs. Ce suspect, c'est un jeune homme de 28 ans qui est déjà bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue. Il n'a pas été interpellé. C'est lui qui s'est spontanément présenté en milieu de matinée à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, où il a immédiatement été placé en garde à vue. Ce suspect savait qu'il était recherché. Les enquêteurs l'avaient très rapidement identifié, car c'est lui qui aurait passé un appel quelques minutes après l'agression. Il avait appelé la police pour signaler une rixe, soi-disant avec de faux policiers. Il s'agissait en fait des fonctionnaires de la PJ de Cergy, très violemment agressés et blessés par balles. Les enquêteurs sont convaincus que ce jeune homme était présent ce soir-là, soit comme simple témoin de la scène, ou bien fait-il partie des agresseurs? C'est ce que les policiers vont tenter d'éclaircir. De très gros moyens d'enquête sont mobilisés. Toute la police judiciaire de Versailles, plus des experts en analyse en tout genre, pour identifier et retrouver les auteurs de cette tentative de meurtre aggravé. Aux dernières nouvelles, le gardien de la paix de 30 ans, grièvement touché, est toujours hospitalisé en coma artificiel.
Merci beaucoup Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1. On file tout de suite à Roland Garros.
Europe 1. Radio officielle de Roland Garros.
Corinne Boulou, on vous retrouve en direct. Et Corinne, on ne devrait pas tarder à connaître le nom du premier finaliste. Hein.
Oui, Rafael Nadal est tout proche d'une 13e finale ici à Roland-Garros. Il mène 2-7 à 0, 6-3, 6-3. Il menait 4 jeux à 2 dans le 3e set. Et puis Diego Schwartzmann, l'Argentin, cet Argentin qui avait battu l'Espagnol à Rome il y a 3 semaines, eh bien, s'est révolté et il a poussé l'Espagnol au tie-break. 6 jeux partout et dans ce jeu décisif, eh bien, l'Espagnol, le tenant du titre, s'est envolé. Il mène 6 points au 0. Schwartzmann est au service. Autant vous dire qu'il a 6 balles de match désormais, l'Espagnol. Et ça y est, c'est fait sur une faute en revers de l'Argentin. Rafael Nadal se hisse pour la 13e fois dans l'histoire du tournoi. C'est unique pour la 13e fois en finale. Il connaîtra tout à l'heure son adversaire à l'issue de la deuxième demi-finale qui va opposer dans quelques minutes Novak Djokovic au jeune grec de 22 ans, Tsitsipas.
Et c'est la magie du direct sur la radio officielle de Roland-Garros, Nadal en finale. Merci beaucoup Corinne Boulot de nous avoir fait vivre.
Il attendait la fin du journal, c'est pour nous.
Merci Raphaël.
Il savait qu'il était en direct avec nous. Merci Corinne pour nous avoir fait vivre ce moment intense et inédit dans l'histoire de Roland-Garros. Raphaël Nadal qui sera donc en finale. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Anissa qui va être en finale ce week-end, en finale des éclaircies et des averses, avec de la fraîcheur également demain.
Oui, c'est le programme effectivement, Julien, c'est bien résumé, puisque la perturbation qui est présente sur le pays aujourd'hui va finir sa traversée du pays demain, avec des Pyrénées jusqu'aux Alpes, un ciel couvert, ça va toucher l'Auvergne notamment, avec quelques petites averses. À l'arrière de cette perturbation, sur le nord-ouest, les éclaircies sont bien présentes. Bonne nouvelle pour les Bretons, les Normands et les Nordistes qui nous écoutent. À l'avant de la perturbation au bord de la Méditerranée et en Corse, là, aucun problème, le soleil brille. Avec attention, le Mistral et la Tramontane qui se renforcent demain et qui souffrent jusqu'à 90 km/h. Et on connaît le Mistral, il apporte quand même un peu de fraîcheur. Les températures, je vous le disais depuis quelques jours, les températures, elles baissent dès demain, avec 5 à 15 degrés le matin, 5 à Vannes, 7 à Brest, 9 à Paris. On perd 5 degrés en l'espace d'une journée demain à Paris, 15 pour Perpignan. Et puis, dans l'après-midi, nous aurons 12 à 23 degrés, 13 à Metz et Dunkerque, 15 à Strasbourg et Paris, 17 à Bordeaux et Grenoble, 19 à Carcassonne, 20 à Nice et 22 à Bastia et à Nîmes.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h17, il est l'un des concepteurs du plan de relance, nommé en juillet dernier ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonsoir Alain Griset.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors l'inquiétude évidemment est grande aujourd'hui chez les petits patrons. Vous êtes vous-même ancien artisan. Ce matin, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, évoquait la menace de reconfinement ciblé. Question simple, est-ce que le tissu économique français en a-t-il les moyens ?
Tout d'abord, nous faisons le maximum pour éviter ce reconfinement. Tout d'abord, en accompagnant les branches professionnelles de façon à ce qu'il y ait des guides qui garantissent aux salariés, aux consommateurs, la sécurité sanitaire. Puis si par malheur, parce que je parle bien, si par malheur, il devait y avoir des reconfinements, nous travaillons pour accompagner les entreprises au cas par cas, secteur par secteur, pour que ce confinement ait le moins de conséquences possibles sur les entreprises.
Bien sûr. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un nouveau coup de pouce pour les PME. La liste des métiers et des secteurs éligibles au fonds de solidarité est élargie. Fleuristes, blanchisseries, bouquinistes, art de la table, graphistes notamment. Est-ce que c'est suffisant quand on sait que beaucoup d'entreprises peinent aujourd'hui à boucler leur fin de mois ?
En tout cas, ça montre notre réactivité et la volonté que nous avons d'accompagner tous ceux qui sont dans les secteurs aujourd'hui les plus en difficulté. Mmh. Donc, on voit bien que l'événementiel est un secteur qui est actuellement en grande, grande difficulté. Dans l'événementiel, il y a beaucoup de métiers qui sont en parallèle intéressés ou concernés par la difficulté d'événementiel. Donc on a rajouté tous ceux que nous considérons aujourd'hui comme étant concernés.
Mais c'est suffisant ?
Si vous posez la question aux entrepreneurs, sûrement que certains diront que ce n'est pas suffisant,
oui.
Mais c'est beaucoup. Quand on regarde ce qui a été fait en France, c'est le seul pays au monde qui a autant accompagné aussi bien les salariés que les entreprises.
Oui.
Et donc nous faisons au maximum pour que nos entreprises puissent passer le cap.
Mais la France est aussi l'un des pays qui a pris les mesures les plus restrictives et donc qui a le plus pénalisé ses entreprises d'une certaine manière.
Oui, mais par ailleurs, si on ne l'avait pas fait, qu'auraient dit les Français s'il n'y avait pas eu cette sécurité sanitaire ? Donc nous avons les deux fers au feu, à la fois travailler sur la sécurité sanitaire, qui est essentielle, les Français ne le comprendraient pas si on fait autrement, et puis par ailleurs, travailler sur la relance de l'économie. D'ailleurs, Permettez-moi de rappeler qu'au mois de mai, après le déconfinement, nous avons une reprise plus importante que nous l'imaginions. Globalement, mai, juin, juillet, août sont bien passés. Bon, là, effectivement, il y a une repartie du virus qui met un petit peu un coup d'arrêt. Mais néanmoins, nous espérons très vite pouvoir reprendre parce que le tissu économique, pour l'instant, s'est maintenu.
Oui,
avec des difficultés, avec des entreprises fragiles,
mais il
s'est maintenu.
On va en parler, Alain Griset. L'un des outils aujourd'hui pour soutenir l'économie, ce sont ces fameux prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Plus de 100 milliards y ont été dédiés. Que va-t-il se passer quand il va falloir rembourser l'argent? Parce qu'il va falloir le rembourser, cet argent. Est-ce que les entreprises y parviendront?
Tout d'abord, c'est 120 milliards qui ont été accordés à 600 000 entreprises, ce qui est considérable. Hein.
Oui.
D'ailleurs, à des entreprises, y compris les plus fragiles, 94% de ces entreprises sont des TPE et les PME.
Oui.
Et donc, pour éviter qu'il y ait ce que j'ai appelé il y a quelques mois le mur de la dette, nous avons donné la possibilité à chaque entrepreneur, avant la fin de la première année, de pouvoir opter pour aller jusqu'à 6 ans dans le remboursement.
6 ans.
Hein, mais même avec au un bout taux encadré.
Mais même au bout de 6 ans, Alain Griset, comment les rembourser? Car ces emprunts n'ont pas permis de financer un investissement, mais des pertes liées à la crise sans retour sur investissement, parce qu'il n'y en aura pas. Comment rembourser? Comment rembourser les pertes qu'on ne peut pas, compenser?
Ça, vous vous projetez dans 6 ans. Moi, j'espère naturellement de tout cœur que l'économie va reprendre et que les entrepreneurs pourront rembourser ce PGE. D'ailleurs, je remarque qu'une partie d'entre eux n'ont pas utilisé ce PGE pour l'instant. Mmh. Une grande partie d'entre eux. C'était une sorte de garantie qu'ils ont pris à juste titre, puisque le taux à 0,25 était intéressant.
Ouais.
Et donc nous regardons au fur et à mesure, on s'adapte. La première mesure, parce que de toute façon nous avons une obligation au niveau européen, c'est d'aller jusqu'à 6 ans, on va jusqu'au maximum. Mmh. Et puis au fur et à mesure, je pense que...
Non mais je vous pose la question parce qu'il y a des chiffres quand même. Hein. On estime aujourd'hui par exemple que 10% des entreprises ne parviendront pas à rembourser leurs prêts. Et le cabinet Euler Hermès vient de sortir une étude qui dit que plus de 62 000 défaillances d'entreprises sont attendues l'année prochaine. 62 000 faillites.
Si je peux me permettre, Euler Hermès est un assureur crédit. Si les assureurs crédit n'ont pas dégradé les notes des entreprises, ça irait mieux pour qu'ils puissent être accompagnés.
Bien.
Permettez-moi de fermer la parenthèse. Mais en tout cas, ce n'est pas les pronostics que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, il y a des autres pronostics qui disaient qu'en mai, en juin, en juillet, ça aurait été la catastrophe. Bon, tout ne va pas bien. Mais moi, je constate qu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas un nombre de défaillances plus important que d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça ne peut pas être facile dans la situation actuelle. Nous essayons de accompagner les entrepreneurs du mieux possible. Vous avez vu qu'on a adapté à plusieurs reprises les dispositifs. Et ce qu'a annoncé Bruno Le Maire hier est tout à fait essentiel pour accompagner ceux qui sont encore en difficulté.
Alors, question précise, Alain Griset, toujours pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'un geste sera fait pour les faire profiter, ces entreprises, de la baisse de l'impôt de production? C'est l'une des grandes mesures, on le sait, du plan de relance, 10 milliards d'euros en moins. Est-ce que des baisses d'impôts spécifiques leur seront réservées à ces petites entreprises?
Tout d'abord, une partie d'entre elles sont concernées par les impôts de production, hein, que ce soit la CVAE ou la CFE. Ensuite, ceux qui sont à l'impôt de la société vont avoir une baisse de l'impôt de société. Et puis par ailleurs, vous avez vu, il y a un accompagnement pour prendre des apprentis, 5 000 euros moins de 16 ans, 8 000 euros au-dessus. Il y a également des dispositifs pour que les entrepreneurs puissent, s'ils le peuvent, rénover leurs locaux. Il y a des dispositifs sur la numérisation pour les accompagner. Enfin, nous avons identifié 25 milliards sur les 100 directement fléchés TPE et en gros 40 milliards possibles d'accès. Et donc aujourd'hui, le travail que nous effectuons, c'est que ces dispositifs soient simples d'accès, lisibles, rapides d'utilisation, pour que l'ensemble des entreprises puissent en bénéficier.
Vous savez qu'il y a plein de petits patrons qui nous écoutent le vendredi soir, notamment dans Europe Soir. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Tenez bon, tenez le coup, on est là avec vous pour vous aider.
D'abord, je leur dis merci parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont investis dans leur entreprise.
Oui.
C'est un peu comme leur bébé. Ils tiennent le coup, ils sont résilients. Et donc, d'abord, leur dire qu'ils peuvent compter sur notre détermination, sur notre écoute pour les accompagner. Et naturellement, leur dire de tenir bon parce que le virus, on va réussir à le combattre, on va en sortir du virus. Et notre objectif à nous, ça doit être aussi le leur, c'est de tenir le coup pendant cette période. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place ces mesures extrêmement importantes.
Un dernier mot, Alain Griset, si vous le permettez. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Un dernier mot sur l'ISF. Un rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité nous apprend aujourd'hui que la suppression de l'ISF décidée par le président Macron en 2017 et l'instauration de la fameuse flat tax à 30% sur les revenus du capital a non seulement profité aux plus riches, mais n'a pas dopé l'investissement. Or, Emmanuel Macron disait à l'époque, c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020, nous y sommes, si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Faut-il rétablir l'ISF ou rétablir un impôt similaire ?
Écoutez, vous avez cité ce que le président a dit, le président regardera sûrement les résultats et il sera en situation de décider ce qu'il considère bon de faire. En tout cas, ce ne sont pas les entreprises dont j'ai la charge aujourd'hui qui sont concernées par ça. Et donc, permettez au ministre de l'économie et au président
mais
de prendre les bonnes
mais
décisions.
Mais si, M. Griset, mais si, car l'ISF devait ruisseler pour les entreprises et pour l'économie. Il avait dit, c'est une réforme pour produire, ça n'est pas un cadeau pour les plus fortunés. Donc les entreprises sont concernées tout de même.
J'entends bien, mais je veux dire que ce n'est pas ces entreprises qui payaient l'ISF.
Oui.
Si je ne me suis pas exprimé, je m'en excuse. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute qu'il y a eu une partie de ces sommes-là qui ont bénéficié à l'investissement dans les entreprises, peut-être pas suffisamment, mais il y en a une partie qui l'ont fait, et donc ça a pu bénéficier également à des sous-traitants et autres. Donc moi, je ne vais pas du tout anticiper la décision du président. Vous avez indiqué ce qu'il a dit. Attendons quelques semaines, quelques mois pour voir de laquelle manière le sujet sera traité. Mais en tout cas, pour l'instant, le président a indiqué qu'il n'était pas question de remettre en cause cette réforme. Donc, acte pour moi.
Ok, merci Alain Griset. Message entendu. Merci infiniment d'avoir été ce soir en direct avec nous dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h30, presque 18h29, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, quelle surprise! L'Espagnol a battu l'Argentin Schwartzmann en 3-7, 6-3, 6-3, 7-6. Il affrontera le vainqueur du match qui vient de débuter entre Djokovic et Tsitsipas. Après 4 ans passés dans le désert malien, les retrouvailles de Sophie Petronin avec sa famille, la dernière otage française dans le monde est arrivée à la mi-journée en France, accueillie à Villacoublay par Emmanuel Macron. L'attaque contre des policiers mercredi dans le Val-d'Oise. Ce matin, un suspect s'est livré à la police, un homme de 28 ans qui est en garde à vue. On ne sait pas encore quel rôle il a joué dans cette attaque. Et puis le tribunal de Paris ordonne la suspension de l'opération du rapprochement Veolia-Suez. La justice considère que les instances représentatives des deux groupes n'ont pas été suffisamment informées et consultées.
Le feuilleton continue donc. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le Grand Journal. La météo avec Anissa qui nous a rejoint pour un nouveau point sur la tendance. Demain avec un peu plus de fraîcheur.
Oui, on va sentir les températures baisser. Demain avec 5 à 15 degrés demain matin de Vannes à Perpignan. Imaginez, demain nous aurons 9 degrés en début de journée à Paris. Aujourd'hui nous en avions 14, donc on va vraiment sentir la fraîcheur. Dans l'après-midi, 12 à 23 degrés, 12 à 15 degrés sur la moitié nord avec 15 degrés à Paris et 15 à 23 dans le sud. Il fait toujours bon au bord de la Méditerranée puisque nous aurons 23 degrés à Toulon. Alors dans le ciel, des Pyrénées aux frontières de l'Est, nous avons toujours cette perturbation qui traverse le pays. Le ciel est donc couvert avec quelques averses. Et puis dans l'après-midi, nous aurons quand même de belles éclaircies sur l'ensemble de la France avec un petit risque d'ondée qui persiste un petit peu partout, donc gardez votre parapluie près de vous. Les températures, je vous le disais, elles baissent. Le Mistral et la Tramontane se renforcent demain et sur les Alpes et les Pyrénées, il neige à partir de 1800 mètres.
Un parapluie ou un petit chapeau ciré, là, très élégant.
Ah, très joli,
hein,
pas mal
façon
ça.
Façon breton.
Jaune, évidemment. Hein.
Ou rouge. C'est Virginie Leguet qui intervient et qui est ce soir dans les grandes voix. Merci Anissa,
à 18h31.
Dans 40 secondes, justement, vous avez compris, on se retrouve avec les grandes voix pour le débat.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h33, on est ensemble pour le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Virginie Leguet, chef adjointe du service politique à Paris Match. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Emmanuel Duteil en charge du service économique d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et David Revaud-Allonne, responsable du service politique au Journal du Dimanche.
Bonsoir Julien.
On est très corporate ce soir, on est dans la maison. Merci de votre présence.
I love the group.
Merci de votre présence à tous les trois. Alors ce soir, pour débuter, on s'intéresse au vrai bilan de la suppression de l'ISF. Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari, comme le disent certains, cadeau fait aux riches pour certains, indispensable rééquilibrage de la fiscalité du capital pour les autres. Eh bien, pour la première fois, on connaît désormais le bilan. Ce sont les conclusions du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. On y apprend que cette suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax à 30% sur les revenus du capital a profité a priori aux plus riches, n'a pas dopé l'investissement, mais a évité l'exil aussi des plus riches à l'étranger. On va donc en parler. D'abord, je vous propose d'écouter ce que disait à l'époque Emmanuel Macron.
Comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Si elle est trop large, qu'elle a des effets pervers, ils seront corrigés. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés.
Voilà, pas un cadeau pour les plus fortunés, mais en un an quand même, la fortune des 0,1% des Français les plus riches s'est accrue d'un quart. David Revaud-Allonne, est-ce que c'est un échec, cette suppression de l'ISF ?
Moi, je ne me prononcerai pas sur l'aspect économique. D'ailleurs, le comité lui-même reste assez flou. Hein.
Oui.
Il avait expliqué l'année dernière qu'il fallait plus de temps pour évaluer l'effet sur l'économie, et en particulier sur l'investissement, et il n'avance pas beaucoup plus cette année. Je resterai sur le terrain uniquement politique. Pour dire que là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et en termes d'efficacité, puisque c'est votre question sur le bilan en positif ou en négatif de Macron, c'est une pierre très lourde dans son bilan. Pourquoi ? C'était une des premières décisions, souvenez-vous, une décision extrêmement symbolique qui relevait de la philosophie macronienne de l'époque, qui était celle de... Bah, l'émancipation par le travail d'une part et de la libération de l'économie et de l'investissement d'autre part. Aujourd'hui, on voit que ça reste finalement dans l'esprit
et
de la gauche.
Valu, mais... qui lui avait valu l'étiquette de président des riches.
Voilà, absolument. C'est là où je voulais en venir. Ça reste un peu le péché originel du point de vue de la gauche et même de l'aile gauche de la majorité, le péché originel du macronisme, puisque effectivement, ça lui avait valu cette étiquette que vous rappelez le président des riches, qui fait évidemment penser à ce qu'avait inauguré Nicolas Sarkozy avec le paquet fiscal au début de son quinquennat, la fameuse loi TEPA, qui là aussi l'avait encore classé, Nicolas Sarkozy, dans la catégorie des présidents des riches. Donc là, on est dans la pure politique, la pure polémique politique. Je crois qu'il faut déconnecter ce sujet. Peut-être que ça lui coûtera cher, peut-être qu'aux prochaines élections, c'est quelque chose qui se pèsera lourd dans son bilan. Je parle bien sûr des présidentielles.
Et surtout que le contexte économique a changé avec la crise du Covid.
En plus, voilà, vous avez raison, il y a un contexte qui a changé, mais je crois qu'il faut déconnecter absolument ça de la question de l'efficacité économique et celle de l'investissement.
Alors moi, je me suis quand même plongé dans le rapport et je réagis à ce que vous disiez sur l'investissement. Il est quand même indiqué qu'a priori, il n'y a pas eu d'effet sur l'investissement, donc sur l'économie réelle, Emmanuel Dutheil.
Oui, mais le rapport dit quand même globalement, et vu que vous l'avez épluché, je suis sûr que vous avez vu ça aussi, que c'est très compliqué d'avoir un avis circonstancié sur tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'au minimum du minimum, si ça n'a pas permis d'avoir des investissements, ça a permis de faciliter la venue de sièges sociaux étrangers ou des décisions d'investissement en France, qui se seraient peut-être faites sans cela, mais pas obligatoirement dans la même ampleur. Tout le monde dit que la France, aujourd'hui, est plus attractive. Et c'est pour ça que, principalement, Bercy en fait un fer de lance de son attractivité et ne veut surtout pas revenir sur cette réforme. Et s'il n'y a pas eu d'investissement, il y a quand même le côté que ça sert les rentrées fiscales. Parce que, par exemple, on voit que les plus riches ont eu beaucoup plus de dividendes qu'il n'y aurait eu sans cette réforme.
Hausse de 60%.
Voilà, hausse de 60%. Mais ils sont taxés sur ces... Et quand vous regardez, c'est écrit là aussi dans le rapport de France Stratégie, qui est un organisme officiellement indépendant parce qu'il dépend de l'État, ils disent que l'un dans l'autre, ça a permis quand même de rapporter une bonne partie de la perte fiscale générée par l'arrêt de l'ISF.
Et puis, il y a un autre aspect, c'est le retour des exilés. Alors, on reste dans des petits volumes. Hein. 250 retours en 2018 contre 160 départs sur la même année. Donc, pour la première fois, l'équilibre s'inverse. Je vous rappelle quand même que sous François Hollande, alors, il y avait une taxation très forte. Il y avait eu les 75%, 70%.
Et puis, il y avait une taxation du capital aussi.
On avait enregistré jusqu'à 900 départs de contribuables fortunés en une année. Voilà. Virginie Leguet.
Oui, alors moi je voulais faire une petite remarque sur ce que vous disiez sur le fait que ceux qui ont perçu des dividendes, et je vais donner des chiffres que vous avez certainement, je crois que les dividendes se montaient à 14,3 milliards en 2017 et à 23,4 milliards en 2018. Ceux qui ont perçu ces dividendes, ils ont aussi bénéficié de la flat tax. Flat tax qui faisait partie de la même réforme, mais flat tax qui, me semble-t-il, modère singulièrement...
À 30%, oui.
Voilà. Et donc,
les revenus du capital.
En fait, ceux qui ont touché ces dividendes ont été moins imposés et finalement, les plus riches sont devenus encore plus riches. Il faut quand même rester très clair là-dessus. Et ça concerne une petite fraction des Français, mais ça concerne une fraction des Français. Et alors là, je pense qu'il n'y a pas de choses neutres dans ce calcul. Ça concerne une petite partie des Français qui sont acquis à Emmanuel Macron et qui lui resteront acquis lors de la prochaine présidentielle. Donc sur ce coup-là, c'est gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. En revanche, je me souviens du débat qu'il y avait présidé à l'élaboration de cette réforme, qui était une des premières réformes du quinquennat, qui était, oui, ça va inciter ceux qui vont bénéficier de ces économies à investir. Mmh. Et certains avaient même imaginé qu'on pouvait conditionner cette réforme à des investissements. Ça n'a pas été fait du tout. Ceux qui ont bénéficié de ces allègements n'ont été conditionnés à rien du tout. Donc
mais on ne sait pas si l'investissement n'aurait pas été plus faible.
On ne le sait pas. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'Emmanuel Macron a simplement changé. Attendez, je termine juste, après j'ai fini. Emmanuel Macron a simplement changé l'ISF en IFI. Et il a singulièrement, et là les chiffres sont là, amélioré la situation des très riches. Ça, on peut le dire, sans leur demander aucune contrepartie. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
On se retrouve dans une fraction de seconde et on continue d'en parler avec la dimension politique, comme l'évoquait à l'instant David. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec les grandes voix Virginie Leguet, Emmanuel Dutheil et David Revaud-Dallone. Et on évoque le vrai bilan de la suppression de l'ISF 3 ans après. Bien, ça y est, des chiffres ont été publiés, notamment par le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité. Alors, s'il y a débat sur la fameuse théorie du ruissellement qu'avait vendu Emmanuel Macron sur l'ensemble de l'économie, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, David, le contexte qui a changé aujourd'hui. Des inégalités de plus en plus fortes, 1 million de chômeurs supplémentaires attendus d'ici à la fin de l'année, 1 million de pauvres de Français qui vont passer sous le seuil de pauvreté d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ça rebat les cartes d'une grande réforme fiscale pour plus, allez, de justice et d'égalité?
Je crois que d'ici la fin du quinquennat, ça sera compliqué de faire une grande réforme fiscale, ça sera même compliqué de faire une grande réforme tout court, vu le contexte politique. On voit que la réforme des retraites, par exemple, elle est quand même largement menacée. Le contexte, vous avez raison, tous les fondamentaux du macronisme ont été bousculés. On avait un Bruno Le Maire qui était quand même, souvenez-vous, à l'époque où il était candidat, le ministre de l'économie qui était candidat à la primaire de la droite, qui avait un programme ultra libéral. Il proposait de se sabrer des centaines de milliers, peut-être même 1 million, si ma mémoire est bonne, de postes de fonctionnaires d'État et territoriaux. Aujourd'hui, c'est presque Che Guevara. Hein. On arrose à tout va. Le budget de le plan de relance, c'est 100 milliards. On ne va pas revenir là-dessus, mais on aide aussi bien les entreprises que les salariés, le chômage partiel, etc. Je veux dire, là, le coup, c'est
l'économie open... subventionnée. Enfin, c'est absolument. Du jamais vu. Absolument.
C'est open bar. Donc, effectivement, le paradigme, le contexte, comme vous le disiez, a totalement changé. En revanche, je le répète, mais cette première affaire de l'ISF, de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, elle reste profondément incrustée dans la rétine des Français. De même que cette théorie du ruissellement qui en est venue à incarner finalement un président un peu hautain, qui n'a pas le sens des réalités, qui est au-delà du président des riches, un président coupé du pays, coupé de la société.
Et c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'au-delà d'une grande réforme d'ici à la fin du quinquennat, il y a une campagne présidentielle qui s'annonce.
Voilà.
Et dans le programme qu'Emmanuel Macron, car il sera candidat évidemment, dans le programme qu'Emmanuel Macron va devoir vendre d'une certaine manière aux Français, est-ce qu'il y aura l'idée d'une refonte aussi de la fiscalité, réforme de l'impôt sur les successions, une taxation plus forte des hauts revenus par exemple?
À ce stade, je n'y crois pas du tout d'ailleurs. Tout simplement parce que tout ce qu'on est en train de dépenser, ça va être très compliqué. Il va falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Oui. Mais vous avez remarqué qu'à aucun moment, le gouvernement, cette année, dans ce projet de loi de finances, ne parle de hausse d'impôts.
Ni de réduction de la dépense
publique. Prochaine, on a une élection présidentielle. Donc ça ne va pas augmenter. Juste un dernier petit point. Je reprends ce que disait Virginie Le Guet tout à l'heure. Sur le faible nombre de gens qui en ont bénéficié, évidemment, de cette affaire d'IFI, ça fait effectivement des gens qui soutiendront Macron et qui voteront Macron, mais ça fait pas beaucoup de gens qui soutiendront Macron, alors qu'à l'inverse, les gens ulcérés par cette mesure, sur le plan symbolique, il y en a un paquet.
Emmanuel,
mais ce qui est important sur la question de la fiscalité, c'est qu'on sait que, et s'il y a un gros problème de ruissellement, même si personne n'est capable de dire que cette théorie du ruissellement existe ou pas, ou fonctionne ou pas, c'est qu'en France, on a toujours peur qu'on ce que l'on nous donne, on nous le reprenne d'une autre main. Toutes les études empiriques le disent, et la direction du Trésor en a même fait là, une étude économique, c'est-à-dire que 2/3 de ce que vous avez comme gain fiscal, vous ne le dépensez pas, vous l'épargnez, parce que vous avez tout simplement peur, et il faut 3 à 4 ans pour que les gens véritablement dépensent. Et là, inévitablement, si on en revient à la question de l'ISF, je suis certain qu'une partie des gens qui ont, oui, vous avez raison, bénéficié d'une énorme somme d'argent, se sont dit, bon, on va le mettre de côté, on ne va pas l'investir tout de suite, parce qu'ils vont bien trouver le moyen de nous en reprendre d'une main ou de l'autre. Et ça joue. Et sur l'ISF, il y a un point qu'il faut quand même jamais oublier.
Oui.
On a perdu des dizaines d'entreprises de taille moyenne ou de taille intermédiaire parce qu'on ne pouvait pas faire de succession au sein des familles, parce que ça coûtait une fortune quand on transmettait ou quand on passait. Et la réforme de l'ISF était aussi liée à tout cela. Et c'est sûr que moi, je comprends les gens qui tapent sur la mesure parce que c'est totalement incompréhensible qu'on ait supprimé ça pour le grand public. C'était 3 milliards, c'était normal que les riches payent. Quand on regarde comme ça, c'est tout à fait normal.
Que...
Non, mais que les riches payent et peut-être doivent payer plus, là-dessus, il n'y a sûrement pas de débat. Mais il faut trouver un impôt moins idiot, alors même si le gouverneur de la Banque de France dit « vous me trouverez un impôt qui n'est pas idiot », mais un impôt moins idiot que ce que pouvait être l'ISF.
Virginie.
Oui, et je pense que parmi les observations qui ont été soulignées dans ce rapport, il est dit que la France, qui se distinguait par une imposition du capital plus élevée que l'autre pays, que tous les pays de l'OCDE, est rentrée dans la norme.
Mmh. Mais, on est juste dans la moyenne. Hein,
oui, exactement. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit un argument neutre pour Emmanuel Macron. Lui, il considérait que les gens étaient trop imposés sur leur capital. Sa logique, son ADN politique, son corpus politique, le poussait à le dire, à le penser. Aujourd'hui, il estime qu'il est
mais parce
à peu
qu'il devait
près...
faire partie de ces gens qui sont au démarrage de l'ISF et pour qui c'est le plus dur.
En dehors même de sa situation personnelle, je pense que ça fait partie de ce qu'il est, de ce qu'il pense et de son vraiment de sa façon de penser la politique. Est-ce que ça va lui nuire en 2022? Moi, je pense que les gens qui étaient hostiles à cette réforme ont été déjà hostiles à Emmanuel Macron lorsqu'il s'est présenté en 2017 et n'iront ni grossir,
oui, David,
ni affaiblir ses
venir.
Rangs.
En tout cas, vous verrez, je suis sûr que dans les jours et les semaines qui viennent, ce rapport, à mon avis, va faire beaucoup de bruit.
Oui, l'électorat qui va protester, c'est déjà un électorat qui a fait sécession avec Emmanuel Macron, qui ne le soutient pas et qui ne l'aime pas. Donc ça ne changera pas grand-chose.
Il sera uniquement conforté dans ses convictions par ces éléments du rapport.
Exactement.
On va se détendre et se relaxer, puisqu'on va parler du cannabis thérapeutique dans quelques secondes. 18h47, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours ensemble avec les grandes voix ce soir. Et on parle à présent du cannabis thérapeutique. C'est parti, pour ou contre? Cette fois, le décret tant attendu par les patients vient d'être publié. Une expérimentation va être lancée. Cela concernera 3000 malades et débutera au plus tard le 31 mars prochain. L'idée est en fait de permettre à ces malades de mieux supporter la douleur liée aux soins de certaines maladies graves, le cancer ou la sclérose en plaques, par exemple. Et pourtant, au gouvernement, cette autorisation fait encore débat. À l'image de Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté.
Moi, j'y suis opposée. Mais c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Je trouve qu'on prend beaucoup trop à la légère les questions de consommation des drogues dites douces. Et même cette appellation ne me convient pas.
Alors là, pardon, hein, mais on est quand même un peu dans l'idéologie, non? Parce que le cannabis thérapeutique, ce n'est pas le cannabis récréatif.
Je ne sais pas
c'est
ce que...
C'est autorisé quasiment dans tous les... J'ai été regarder dans tous les pays d'Europe. Et l'idée, c'est évidemment...
22 sur 27.
L'idée, c'est évidemment... Oui, et 30 pays dans le monde. Donc l'idée, c'est évidemment de soulager. Hein, ce n'est pas fumer pour s'amuser. L'idée, c'est vraiment de soulager les malades qui sont dans des conditions très difficiles pour pouvoir... amortir un petit peu la douleur. Voilà, donc comment vous interprétez cette déclaration de Marlène Schiappa qui veut commencer, Virginie Leguet?
Je ne sais pas si elle a été confrontée dans sa vie à quelqu'un qui souffrait de maladies très graves, dont vous avez cité d'ailleurs la liste. Je ne sais pas si elle a vécu de près la douleur que peut provoquer chez certains malades des affections très graves, dont des cancers, dont les conséquences des chimiothérapies. Moi, je l'ai vécu et je peux vous dire que consommer du cannabis fait du bien à ces gens-là. Ça soulage leur douleur, ça soulage leur peine. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un caprice, il ne s'agit pas de gens qui veulent juste fumer un joint pour fumer un joint. D'ailleurs, je crois que fumer du cannabis sera interdit.
Oui, c'est sous forme d'huile, de gélules,
exactement,
et de fleurs séchées vaporisées.
Exactement. Et moi, la seule question, pour vous dire la vérité, que je me suis dit, est-ce que l'huile, les fleurs séchées seront aussi efficaces que réellement le cannabis fumé pour des gens qui parfois sont victimes de douleurs que les médicaments ne peuvent pas toujours soulager. C'est bien de ça dont il s'agit. Il ne s'agit de rien d'autre.
Parce que la vérité dans la déclaration de Marlène Schiappa, David Revaud-Allonne, c'est que les politiques craignent que cela ouvre en fait la voie à la légalisation du cannabis récréatif. Mais c'est deux sujets totalement différents.
Bien sûr, la légalisation ou la dépénalisation du cannabis en général, non pas thérapeutique, est le diable pour tous les partis politiques. Et là encore, vous citiez la différence entre les législations au niveau européen. Là encore, la France a une des législations les plus répressives
dures
d'Europe.
Et pourtant, les Français sont les plus consommateurs en
Europe. Absolument. Et aucun politique, je crois, même pendant la prochaine campagne de 2022, je suis prêt à prendre le pari avec vous, Julien, et à vous payer un, non pas un, un pétard, mais un verre, si jamais si jamais
je l'appelle. Un restaurant.
En 2022, je crois que personne, aucun candidat ne prendrait le risque de plaider pour une dépénalisation ou une légalisation du cannabis récréatif. Cela dit, le son que vous venez de diffuser de Mme Schiappa
est
assez...
incomplet. Il est peut-être incomplet.
Il est peut-être incomplet, mais il est assez éloquent, je trouve, sur effectivement la confusion et le fait que ce gouvernement, comme les précédents et comme la majorité des formations politiques en France, ne veulent pas entendre parler de cannabis, qu'il soit thérapeutique ou récréatif. Et j'en veux pour preuve le cheval de bataille numéro un de notre nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, oui. qui sont les stupéfiants et en particulier le cannabis. Il a mis le paquet, oui. il multiplie les opérations, fait beaucoup de communication là-dessus. Donc là, on est sur un gouvernement qui, très clairement, joue la carte de la répression.
Qui a instauré l'amende forfaitaire à 200 euros.
Oui, mais on est sur le cannabis récréatif. Alors que là, le cannabis thérapeutique, pardon, mais c'est de la santé publique.
Bien sûr.
Quand vous lisez ce qu'écrit, par exemple, le rapporteur général de la mission, il s'appelle Jean-Baptiste Moreau, il est LREM. Il faut que la France sorte de la préhistoire en matière de cannabis, dit-il, une plante qui est une drogue, mais qui peut aussi être un médicament pour certains patients.
Je ne sais pas si vous connaissez ce terme grec, mais le pharmacon en grec, et on se demande toujours ce qui est pire entre le poison et le remède. Et je pense que là, on est vraiment dans cette question. Moi, je vais me placer sur un angle purement...
D'ailleurs, à l'hôpital, on donne de la morphine à certains patients. Enfin,
Moi, je vais me placer sur un angle purement économique. La France veut absolument devenir demain le leader mondial des médicaments personnalisés. C'est un des points extrêmement importants du plan de relance. Donc, je me dis que rien qu'avec ce prisme-là, on ne peut pas aujourd'hui s'interdire de tenter ce genre de choses, puisque s'il y a bien quelque chose qui permet de personnaliser les médicaments, c'est bien d'aller vers ce genre d'expérimentation. Parce que là, on parle d'une expérimentation. Hein. Sur 3000 patients, on n'est pas encore sur la généralisation. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une avancée si, effectivement, elle est très encadrée, elle est très contrôlée et qu'elle reste dans un territoire purement médical. Il faut aussi voir que souvent, ça va venir à la place de la morphine. A priori, la morphine, ce n'est pas non plus super bon, super facile à supporter. Donc moi, je trouve qu'il y a au moins l'idée d'essayer, si c'est extrêmement bien encadré et laissé dans quelque chose de purement thérapeutique, il y a un coup à jouer, même d'un point de vue purement économique.
Si vous dites à Bruno Le Maire, il y a 3 milliards à gagner dans l'affaire, à mon avis,
lui, sinon, si vous lui dites en ce moment, il y a 300 000 euros, je pense qu'il vous les prend.
C'est vrai qu'on cherche beaucoup des économies pour remplir la tirelire. Le rapport de Jean-Baptiste Moreau que vous citiez, Jean-Baptiste Moreau, il faut préciser pour les auditeurs qui savent, c'est un député La République En Marche, mais qui à l'origine est un agriculteur venu de la Creuse et qui considère, lui, qu'il y a sur le plan du cannabis thérapeutique, un véritable champ de développement économique, sans mauvais jeu de mots,
c'est le cas de le dire.
dans son département, et qu'il y a là effectivement une potentielle manne. On voit qu'il y a beaucoup d'États, évidemment, je pense d'abord en premier lieu à certains États américains qui se sont lancés
qui ont beaucoup moins d'argent que prévu avec le récréatif. La Californie, c'est beaucoup moins intéressant que prévu.
Absolument, mais il y a quand même eu potentiel de développement. Il y a quand même eu un marché qui n'existait pas avant et qui, effectivement, dans un contexte où on vient de dépenser 100 milliards dans le plan de relance et où le budget de l'État et le déficit sont en train d'exploser, il faut aussi se poser ces questions-là.
Bien, merci à tous les trois d'avoir participé aux Grandes Voix du Vendredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, on se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous, bien sûr, avec le journal de 19h, Isabelle Millet, et juste après, le débat du Club des Idées dans les coulisses de la libération de Sophie Pétronin. On vous dit tout. À tout de suite.